Pour la dernière séance de la saison 2020-2021, je vous propose deux textes qui concernent le même personnage, un notaire de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. La première partie est intitulée « Le notaire violent ». Noël Brunet, juge mage de la province de Maurienne, apprend par la rumeur publique, en se promenant dans la ville le 18 novembre 1760, que le notaire de la cité, Alexis Bérard, s'est rendu la veille de propos délibérés dans l'étude de spectable Joseph Ignace Favre, commis par le Sénat de Savoie pour faire les fonctions de procureur fiscal, dans une affaire pour crime de faux contre Marie Arnaud, la mère d'Alexis Bérard, afin de tenter de subtiliser avec violence et fureur les pièces et les conclusions de la procédure ouverte contre sa mère. Le juge interroge aussitôt le procureur fiscal, qui lui confirme l'incident, ajoutant que n'ayant pas voulu céder à Alexis Bérard et ayant crié au secours, ce dernier lui a porté les dents sur la main pour lui faire lâcher les papiers. En attendant les ordres du seigneur avocat fiscal général pour savoir si on pouvait se contenter de punir économiquement la violence du notaire, le juge-mage ordonne à deux soldats de justice de saisir incontinent le notaire Bérard et de le traduire dans les prisons royales de la ville, ce qu'ils ont conséquemment exécuté le jour même sur les 6 heures du soir. Le 21 novembre, le juge-mage, en exécution de la décision de l'avocat fiscal général, qui estime qu'on ne peut, en la circonstance, se dispenser d'instruire une procédure en règle au sujet des excès commis par le notaire Bérard, décide de procéder aux informations nécessaires à cet égard et, pour commencer, convoque spectable Joseph Ignace Favre pour qu'il dépose sous serment. La déclaration est faite en présence de spectable Joseph Gravier, avocat fiscal de la province, et de maître Alexis Balmain, notaire royal, qui fait fonction de secrétaire. Joseph Favre prête serment sur les saintes écritures entre les mains du juge touché, ensuite de dures remontrances sur l'importance d'un tel acte, et promet de dire la vérité sur les excès commis sur sa personne. Il déclare « Le Sénat m'ayant commis pour faire les fonctions du fisc dans la procédure que vous instruisez contre Marie Arnaud, femme de Jean-Pierre Bérard, de cette ville, accusé d'avoir suborné des témoins à déposer des faux, l'on m'a remis cette procédure en original un des premiers jours de ce mois pour y donner des conclusions réparatoires. Je me suis mis en devoir d'y travailler, mais comme je ne pouvais le faire qu'à certaines heures, pour ainsi dire à la dérobée, pour la raison qu'Alexis Bérard, son fils, qui occupe la fonction de substitut greffier dans mon étude, vient très souvent, chaque jour, pour les affaires de son office. Le 17 du courant, comme je travaillais encore sur les 11 heures du matin, je suis sorti un instant de mon cabinet pour aller jusqu'à la porte de mon jardin proche et j'ai laissé, contre ma coutume, ne pensant pas qu'à cette heure, personne n'entra dans mon cabinet, sur la table où je travaillais, mes conclusions fort avancées, les mémoires sur lesquelles je les dressais, et encore le second tome des Royales Constitutions, ouvert au titre des faussetés. J'ai, à mon retour, trouvé dans mon cabinet le notaire Bérard, qui m'a d'abord dit qu'il était venu extraire du registre des causes sommaires une sentence dont il avait un pressant besoin. J'ai été, à la vérité, un peu surpris de le voir à cette heure-là et j'en aurais même formé quelques soupçons de curiosité si je n'avais remarqué qu'il n'y avait aucun dérangement sur ma table. À midi, au moment de partir, le notaire Bérard s'est mis à pleurer, en avouant qu'il s'était aperçu que je travaillais à la procédure qui s'instruisait contre sa mère. Il m'a ensuite prié de lui dire le parti qu'elle devait prendre. Je l'ai d'abord un peu grondé de son indiscrétion. Le notaire Bérard est alors parti en pleurs. Mais, sur les 3 ou 4 heures de l'après-midi, comme je travaillais encore à achever mes conclusions, je l'ai vu revenir dans mon étude, avec un air des plus tristes et des plus humiliés. M'étant aussitôt levé de ma table, je l'ai arrêté à quelque distance de celle-ci pour lui demander ce qu'il souhaitait. Il m'a dit qu'il avait une grâce à me demander, qui était de suspendre mon ouvrage contre sa mère, au moins pour une semaine. Je lui répondis, bien fâché, que je ne pouvais lui faire là aucune réponse là-dessus. Il a alors changé tout à coup son air humilié pour une espèce de fureur, avec laquelle il est tombé sur le tas de papiers qu'il avait vu le matin sur ma table, dans lequel se trouvait le mémoire concernant la procédure contre sa mère. Il s'est saisi du tas de papiers avec les deux mains en me disant « Eh bien, vous ferez par force ce que vous ne voulez pas faire par plaisir. » Après quoi, il s'est aussitôt mis en devoir de se sauver en les froissant et en les déchirant. Voyant cela, je lui dis « Malheureux, que faites-vous là? Rendez-moi les papiers. » Et en même temps, je lui en ai arraché une partie des mains. Mais comme il emportait le reste, je l'ai arrêté par le derrière de son habit et j'ai tenté de lui enlever ce qu'il avait encore entre les mains. Bien loin de vouloir céder, il a persisté à se défendre, de façon que je me suis mis à crier « Au secours !» Dominique Bizet-le-Caton, ma servante, et Marguerite Didolet, ma parente, sont alors venues à mon secours. Bérard s'est aussitôt échappé dans mon jardin, d'où, n'ayant pu sortir librement, il est revenu sur ses pas et m'a alors demandé pardon, en me disant que c'était la rage et le désespoir qui l'avaient fait agir ainsi. Je lui ai répondu que le trait qu'il venait de faire était bien noir, mais que, cependant, je lui pardonnais de bon cœur pour peu qu'il me remît les débris de papier qu'il tenait encore entre les mains. Il ne m'a rien répondu, m'ayant seulement fixé avec des yeux hagards, en se portant à la bouche les débris de papier, et il s'est sauvé sur le champ, en courant, dans la rue jusqu'à laquelle je l'ai suivi, en lui ajoutant que, puisqu'il agissait ainsi, j'en informerai qui de droit. J'ai alors remarqué qu'il y avait sur ma main une égratignure qui paraît avoir été faite avec les dents. J'ai immédiatement envoyé ma servante demander à maître Saturnin Guille, votre greffier, de venir pour recopier les quelques feuillets déchirés et pour lui remettre ce qu'il me restait de la procédure. Dans l'intervalle, Marie Arnaud, la mère du notaire Bérard, entre chez moi et me prie instamment de pardonner à son fils en disant qu'il est innocent, que c'est elle qui lui a ordonné de venir chez moi faire le coup de main, pensant que c'était là le vrai moyen de mettre fin à la procédure qu'on lui faisait et que par conséquent son fils n'a fait que lui obéir. Elle m'a ensuite prié de lui continuer l'entrée dans mon étude, mais je lui répondis que quoique je pardonnasse de bon cœur à son fils, je ne pouvais plus cependant, après pareil trait, lui en permettre l'entrée. J'ai oublié de vous ajouter qu'ayant précédemment fait remarquer à Marie Arnaud que son fils aurait pu au moins me rendre les débris de papier qu'il avait emportés, elle me les a remis alors sur le champ. Sur les généraux interroga, Spectable Fave répond « Je suis âgé de 57 ans, je suis avocat et juge royal en cette province, j'ai en bien environ 1000 pistoles et je ne suis ni parent, allié, créancier, débiteur, ni domestique de Bérard, ni de sa mère. Lecture faite de sa déclaration, il est interpellé de dire s'il veut y persister, changer ou diminuer. Il répond « Je persiste à ce que j'ai dit et je ne veux rien changer » et il a signé. Le juge fait mettre dans un étui 8 morceaux des papiers déchirés et il le cachette avec de la cire rouge d'Espagne sur laquelle il appose son sceau représentant un chevron brisé en 3 étoiles. Il convoque alors dans son étude Jean-Claude Marmiot, chirurgien juré de la ville, pour qu'il visite Spectable Favre et qu'il fasse son rapport sur les 2 marques en forme d'égratignure qui se trouvent sur la main droite de l'avocat. Le chirurgien dépose son expertise le 22 novembre. Moi, Claude Marmiot, je dis et rapporte que Spectable Favre a sur la 3e phalange du pouce de la main droite de légères égratignures de la longueur d'une ligne. Une ligne, c'est 2,25 mm. À chacune est distante l'un de l'autre d'une ligne aussi environ, lesquelles égratignures, eu égard à leur distance, je juge qu'elles peuvent avoir été faites avec les dents de quelqu'un qui a voulu mordre Spectable Favre. Et je vois qu'elles sont déjà guéries sans qu'elles aient laissé aucune débilité ni difformité à la partie offensée. Le premier témoin convoqué, Saturnin Guy, notaire royal et greffier du tribunal, confirme tous les dires de Spectable Favre. Il ajoute que ce dernier, ne pouvant se défaire de cette femme qui insistait toujours au pardon pour son fils, il passait devant elle sans rien dire, poussait Spectable Favre qui se trouvait sur le seuil de la porte de son cabinet et enfermait prestement la porte. Il reconnaît les débris de papier que le juge lui présente comme étant bien des morceaux de la procédure. Sur les généraux interrogats, il répond qu'il a plus de 2000 livres de biens, quoique son père soit encore vivant, et qu'il n'a aucun lien avec le notaire Bérard ou sa mère. Le lendemain, le juge convoque Dominique Bizel-Caton, la servante de Spectable Favre. Elle donne une version en partie différente. Le 17 du courant, sur environ les 3 heures de l'après-midi, me trouvant dans le poêle du sieur avocat Favre, chez lequel je suis en service, à repasser du linge, j'ai d'abord entendu que le sieur avocat Favre se fâchait contre quelqu'un. Mais je n'ai quitté le poêle qu'au moment où j'ai entendu qu'il s'est mis à crier et à répéter « Au secours !» Je suis sorti à l'instant sur l'escalier où j'ai trouvé l'avocat Favre qui faisait des efforts pour arracher des papiers des mains du notaire Bérard. Ce dernier, qui se défendait opiniâtrement aux instances et aux efforts de l'avocat, a tout à coup porté les dents sur la main droite de l'avocat. J'ai alors saisi le notaire Bérard par la tête et l'ai fait tomber sur l'escalier en appelant à mon secours un gros chien de mon maître, lequel est effectivement venu tirailler Bérard par son habit. Après quoi, Bérard s'est relevé et s'est sauvé. Sur les généraux interrogats, Dominique Bizel répond « Je suis âgé de 26 ans, je suis originaire d'Albier-le-Vieux, je suis au service, comme j'ai dit, n'ayant aucune profession. J'ai en dette environ 300 livres et je ne suis point parente, alliée, créancière, débitrice, ni domestique du sieur Bérard, non plus que de sa mère, ni de l'avocat Favre, sauf que je suis en service chez lui. » Marguerite Didolet, la parente de l'avocat Favre, convoquée à son tour, fait rigoureusement la même déposition. Elle reconnaît les lambeaux de papier que lui exhibe le juge pour une partie de ce qu'elle a vu déchiré par le notaire Bérard et qu'il refusait de rendre, ajoutant « J'en ai moi-même ramassé, et je les reconnais très bien, soit à l'écriture du sieur avocat Favre que je connais, soit au froissement d'Isseux, et à ce que l'on voit encore qu'il y en a qui ont été déchirés avec les dents. Elle déclare être originaire de Saint-Michel-de-Maurienne, être âgée de 23 ans, n'avoir aucune profession, environ 400 livres de biens et ne pas être parente, alliée, créancière, débitrice, ni domestique d'Alexis Bérard ou de sa mère Marie Arnaud, mais être cousine au second degré avec l'avocat Favre, sans être non plus créancière, débitrice, ni domestique de celui-ci. Le 23 novembre, le juge Mage, en l'assistance de Jean-François Rojas et du greffier Guille, se rend dans l'auditoire des Royales Prisons pour y interroger Alexis Bérard. Après lui avoir fait prêter serment sur les saintes écritures entre ses mains touchées et lui avoir fait promettre de dire la vérité sur le fait d'autrui, il le commine de la dire sur son fait propre, à peine de 4 écus d'amende. Sur les généraux interroga, Alexis Bérard répond « Je suis le fils du marchand Jean-Baptiste Bérard, je suis natif et habitant de la présente ville, je suis âgé de 25 ans, notaire et secrétaire de la paroisse de Saint-Pancras et substitut greffier des terres royales. Je n'ai aucun bien pour être fils de famille. » Lorsque le juge lui demande s'il sait pourquoi il a été arrêté et traduit dans les prisons, il répond « Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. Un des soldats de justice qui m'ont saisi m'a seulement dit que vous me demandiez, ce que je n'ai pas cru puisqu'on m'a traduit dans ces prisons au lieu de me conduire chez vous. » Si Alexis Bérard reconnaît s'être rendu dans l'étude de l'avocat Favre, le 17 du courant, un peu avant midi, il ne se souvient pas de s'être mis à pleurer, ni d'avoir prié l'avocat de lui dire les parties que devait prendre sa mère. Il reconnaît ensuite être revenu vers les 3 heures de l'après-midi, avec un air triste et humilié, et avoir à ce moment-là demandé une grâce à l'avocat Favre, qui consisterait à suspendre pour une semaine l'ouvrage qu'il faisait contre sa mère et que l'avocat lui a répondu qu'il était bien fâché de ne pouvoir lui faire aucune réponse là-dessus. Il ajoute « La fureur me prit alors. » M'étant aperçu, en jetant un coup d'œil sur la table, qu'il y avait des papiers contre ma mère. Mais je n'ai pas dit à l'avocat « Eh bien, vous ferez par force ce que vous n'avez pas voulu faire par plaisir. » Je suis alors tombé incontinent à la vérité sur le tas de papiers que j'ai enlevé avec les 2 mains en les froissant et je me suis mis en devoir de me retirer. Mais l'avocat m'a retenu par mon habit et il s'est mis à crier au secours. Ce qui m'ayant tout étourdi, je suis tombé sur le seuil de la porte de son cabinet. Je ne crois pas avoir porté les dents sur la main de l'avocat fiscal lorsqu'il me faisait des instances pour récupérer les papiers. Je n'en ai aucune mémoire. Il conteste également avoir été saisi par la tête par la servante de l'avocat Favre et ajoute « Elle ne m'a pas fait tomber sur l'escalier puisque j'étais déjà par terre lorsqu'elle est arrivée. » Il conteste également la présence du chien. Lorsque le juge lui demande s'il s'est sauvé du côté de la porte du jardin avec les papiers qu'il déchirait, et s'il est revenu en arrière pour demander pardon à l'avocat Favre de l'excès qu'il venait de commettre, il répond « Tout cela est vrai, mais lorsque le juge lui demande si à ce moment-là l'avocat Favre lui a dit qu'il lui pardonnerait de bon cœur, pourvu qu'il lui remît les lambeaux de papier qu'il tenait dans les mains, et s'il s'est alors sauvé en portant à la bouche les morceaux de papier, poursuivi jusque dans la rue par l'avocat, il répond « C'est vrai que l'avocat m'a fait de nouvelles instances après que je lui eus demandé pardon pour que je lui rende les restes des papiers. Mais comme il m'a en même temps accablé de reproches, je me suis sauvé dans la rue, où j'ai alors rencontré ma mère, à qui j'ai remis les lambeaux de papier. Elle est allée sur le champ faire des excuses pour moi chez l'avocat Favre, où j'ai été moi-même le lendemain lui faire aussi des excuses sur ce que j'avais fait la veille. Le juge fait relire au sieur Bernard ses réponses. Celui-ci déclare vouloir y persister sans rien changer, ajouter, diminuer, et il signe le document. Le lendemain, le juge convoque Jean-Marie Robert, notaire et procureur au bailliage, natif et habitant de la ville. Après l'avoir assermenté, il lui demande s'il est informé des excès qu'a commis le notaire Alexis Bérard dans le cabinet de l'avocat Favre. Maître Robert répond que, mercredi passé, environ les 2 heures après-midi, ayant trouvé le notaire Alexis Bérard proche de la boutique du sieur Mathieu Donnet, et l'ayant vu parler défiguré et hors de lui-même, je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a répondu qu'il était au désespoir par rapport aux mauvaises suites que pouvait avoir la procédure qu'on instruisait contre sa mère. Il m'a ajouté qu'il était tenté de prendre la procédure qui était sur la table de M. Favre. Je lui ai dit alors « Gardez-vous de cela, comme de vous brûler, et reposez-vous sur les soins que je prendrai tant par rapport à vous que par rapport à votre sœur, Dalban, qui a épousé le neveu de ma femme. Comme je connaissais le notaire Bérard assez docile, je n'ai pas cru qu'il exécuterait son dessein. » Sur les généraux interrogats, M. Robert répond « Je suis âgé de 48 ans, je suis notaire, secrétaire de cette ville et procureur au bailliage. J'ai pour environ 10 000 livres de biens et ne suis ni parent, allié, créancier, débiteur, domestique du notaire Bérard ou de sa mère. » Le 25 novembre, le juge Mage revient dans l'auditoire des Royales Prisons et demande qu'on amène Alexis Bérard par devant lui. Le juge estime que le notaire ne lui a pas dit toute la vérité. Il l'exhorte à nouveau à le faire, et celui-ci, ayant insisté à dire qu'il persistait dans ses réponses, le juge lui fait comprendre la force des indices et des présomptions qui militent contre lui. En conséquence, il le somme de se choisir un avocat et un procureur pour défendre sa cause et dire raison pourquoi il ne subira pas la peine due en pareil excès. Alexis Bérard nomme pour son avocat spectable Joseph Bertrand et pour procureur maître Jean-François Rosa. Le juge fait appeler ce dernier, lequel ayant comparu, il l'interpelle de lui déclarer s'il tient les témoins pour dûment oui et examiné ou s'il a quelque interrogatoire à leur donner. Après une brève et secrète conférence qu'il a eue avec Bérard, le procureur répond qu'il tient les témoins pour dûment examiner, qu'il n'a aucun interrogatoire à leur donner et qu'il se réserve de fournir des reproches contre eux si le cas échoit et de donner ses défenses. La procédure est déclarée ouverte et publiée et une copie de l'original est communiquée au procureur Jean-François Rosa. Le 3 décembre, le procureur fournit son acte de défense dans lequel il rappelle qu'un témoin qui dépose que de ce qu'il a ouï dire à un autre ne fait pas preuve, surtout en matière criminelle. Or, aucun des témoins n'a vu Alexis Bérard prendre de force des papiers sur la table de l'avocat. Ensuite, le prétendu délit imputé à Alexis Bérard n'est donc pas prouvé. Et il ajoute que, même si le résultat de la procédure quelque chose qui chargea l'accusé, il faut faire attention que c'est un enfant qui a cherché à sauver, si c'était possible, l'honneur de sa mère, de sa famille, et qui n'agit qu'ensuite des ordres de sa mère, ainsi qu'il résulte de la procédure. Or, personne n'ignore ce que les sentiments de la nature et de l'affection qu'on doit avoir pour ceux de qui on a reçu le jour sont capables d'inspirer, surtout dans des circonstances aussi critiques que celles où se trouvait l'accusé. Il y a donc tout lieu d'espérer de l'équité des juges, qu'ils soient relaxés sans dépens. Le procureur fiscal, après avoir repris en détail toutes les pièces de la procédure, considère que les informations prises, et les aveux même de l'accusé, forment une preuve complète des excès commis par Alexis Bérard. Le recours au sentiment de nature n'est pas recevable et ne peut mettre le prévenu à l'abri de la peine due pour pareils excès qui, n'étant pas ordinaires et tendant à empêcher le cours de la justice et à troubler les officiers dans leurs fonctions, il paraît que c'est le cas de faire en sorte que pareil excès ne réarrive pas. Si une simple injure verbale faite à un huissier ou un sergent lorsqu'il procède à quelques exécutions est déjà puni d'un coup d'estrapade en public, il est sensible que les excès commis par l'accusé vis-à-vis de l'avocat Favre dans son étude et dans le temps qu'il était occupé à ses fonctions d'officier du fisc, en lui faisant violence, sont plus graves. C'est pourquoi, cette peine étant arbitraire, il demande qu'Alexis Bérard soit condamné à la peine des galères pendant 2 ans et aux frais et dépens de justice. Le 23 novembre, le juge Noël Brunet, lorsqu'il prononce sa sentence, fait preuve d'une moins grande sévérité que l'avocat fiscal en condamnant Alexis Bérard à être et demeurer banni des États de Sa Majesté pendant 5 ans, avec inhibition et défense d'y rentrer à double peine, et le condamne en outre aux dépens et frais de justice. Mais Alexis Bérard n'entendra pas prononcer sa condamnation, car il s'est entre-temps enfui des prisons royales de Saint-Jean-de-Maurienne.